On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
C'est de passage, t'es installé ici, près du lac?
Taloir.
Ah, Taloir, mais alors nous sommes voisins, tu es dans le bourg?
Je suis loin vers le bout du lac.
Faut mettre 15 morceaux de ferra, d'accord?
Chef.
Et là, on est à une journée où c'est calme, hein. C'est pas toujours comme ça.
Rendez-moi de la ferra pour vous goûter, là.
Chaque année, près de 4 tonnes de ferra, 1 tonne de perche, 800 kilos d'écrevisses remontent dans les filets de Florent Capretti.
Là, je ramasse vraiment les toutes petites pousses. Et c'est des achillemifeuilles, je vais les mettre sur ma mousse de Beaufort que je fais en esprit d'alpage. Ok, entre 3 et 4 fleurs. Allez, on va goûter.
Comme ça fait du bien de quitter nos studios parisiens et de dresser le couvert dans une ville qui nous est chère. Une ville où la cuisine est à la fois alpine, lacustre, maraîchère. Nous sommes à... Oui, Annéciens, Annéciennes, bonjour à toutes et tous. Nous sommes devant le public chaud bouillant du Festival international du film d'animation d'Annecy, sa 10e édition. Oui. Sa 10e édition s'est achevée samedi soir. On va déguster, dresse le couvert à l'Impérial Palace posé sur les berges du lac d'Annecy. Et vous en apercevez, ce public est vraiment chaleureux, ça tombe bien. Car dans ce lac, eh bien, on va puiser toutes les ressources et les trésors de cette émission. Nous recevons tout d'abord un couple qui met littéralement le feu au lac. Magali et Jean Sulpice, bonjour. Magali et Jean, vous avez repris et transformé il y a 3 ans une institution mythique fondée en 1903 sur les berges du lac d'Annecy, à Taloir, à l'autre bout du lac. C'est la fameuse auberge
du Perbise.
Ah bah quand même. Bravo Jean, l'auberge du Pervis, il se souvient du nom de son restaurant. Magali, vous êtes chef de salle et sommelière. Jean, vous êtes chef cuisinier. Et on va voir que pour vous deux, le lac c'est beaucoup plus qu'un panorama. C'est un vivier, mais c'est aussi une source d'inspiration culinaire. Et là, il y a déjà des choses qui sont en train de se préparer. Grâce à l'un des gars de votre brigade, Jean, on peut le citer d'ores et déjà.
Germain, qui est là, qui va nous cuire les écrevisses.
Et d'autres choses encore?
Plein d'autres choses, ouais.
Notamment une mousse de Beaufort.
Tout à fait, et puis aussi des petites douceurs sucrées. On associe le légume avec les fruits.
On va les faire tourner dans les travées de la salle de l'Impérial Palace. Le lac d'Annecy, c'est aussi le terrain de jeu de Florent Capretti. Bonjour.
Bonjour.
Florent, vous êtes l'un des deux artisans pêcheurs professionnels qui exploitent le lac. Mais j'ai pas envie d'employer le mot exploiter, car vous pratiquez une pêche douce sur une toute petite embarcation. Et vous remontez dans vos filets des ferras, des écrevisses, des perches. Vous allez nous raconter ce métier incroyable pour des restaurants comme l'auberge du Perbise, évidemment, mais aussi pour des commerces accessibles au grand public. Et puis, on va prendre un peu de hauteur avec une jeune agricultrice, Caroline Joguet. Bonjour.
Bonjour.
Votre métier ?
Chevrière.
Chevrière, intéressant. Vous élevez des chèvres ?
C'est ça.
Pour faire de délicieux fromages. Alors, vous travaillez en montagne, à Arèche, on n'est pas très loin d'ici, dans la vallée du Beaufortin, dans le département voisin de la Savoie, 1h15 à peu près d'Annecy, hein, c'est ça? Et vous fabriquez des fromages de chèvres fermiers au lait cru qui font littéralement tourner la tête des amateurs et des chefs d'ailleurs comme Jean Sulpice. Ils sont incroyables, vos fromages. Est-ce que vous pouvez juste mettre des noms sur ceux que vous nous avez apportés?
Alors, je vous ai apporté le plancherin d'Arèche, qui est un vacherin de chèvre, et le grataron, donc le fromage typique du Beaufortin.
Génial, on va en parler avec vous et on va surtout les goûter, notre public aussi d'ailleurs. Dans les valises dont on va déguster, je vous ai rapporté 2 chroniqueurs, Elvira Masson et Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Très heureux d'être là.
Ça va Elvira?
Ça va très bien. Moi, je vais vous parler de 2 destins de femmes.
Oui.
Des bords du lac d'Annecy jusqu'au bayou de Louisiane.
On part un peu loin pour 2 destins qui pourraient être entremêlés. Tout à fait intéressant. Antoine, j'imagine qu'on va boire la région.
Oui, il y a beaucoup de lacs ici, 3 grands lacs, mais autour de ces lacs, il y a surtout de très belles vignes et des nouvelles vignes, une nouvelle génération. On en parle.
Pour retrouver toutes les infos pratiques, notre carnet d'adresses à Annecy, les recettes de Jean Sulpice et le podcast de l'émission, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster. Est-ce qu'Annecy a de l'appétit?
Oui.
C'est parti.
France Inter.
On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Tous aux abris, le monstre d'Annecy envahit le plateau d'On va déguster. Je la tiens, elle brandit ses pinces menaçantes sur notre plateau. On la surnomme un peu le homard des lacs ou pas, Florent Capretti?
Oui, c'est un peu notre homard du lac d'Annecy, oui.
En plus petit quand même?
Un peu plus petit, oui. Mais ils font quand même des belles tailles.
Alors c'est vous, Florent, qui nous les avez rapportés? Comment vous les capturez?
Alors on les capture avec des petites nasses.
Des casiers?
Des petits casiers, oui.
C'est quelle espèce? Il y a écrevisse et écrevisse, évidemment. Parfois même, cette fameuse écrevisse est à l'origine de certains scandales, puisqu'elle a la réputation d'être assez invasive.
C'est l'écrevisse à pattes rouges, l'écrevisse signale. Le nom latin, c'est la pacificus.
En nom vernaculaire, c'est écrevisse signale, ou écrevisse du Pacifique, ou écrevisse de Californie. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas vraiment une écrevisse. Et là, d'ailleurs, elle est en train de frétiller dans des poils sur une plaque vitrocéramique, ce qui explique les petits bruits qu'on a au micro. Tout cela se fait vraiment en live, entre guillemets. Ah, elles apparaissent déjà sous le nez de Jean Sulpice, ces belles écrevisses qui viennent de passer à la poêle. Je disais que celle-ci, elle est étrangère. Et du coup, est-ce que l'écrevisse autochtone, qui est l'écrevisse européenne, est-ce qu'on la trouve encore dans le lac? Est-ce qu'elle est menacée? Est-ce que son équilibre est en danger?
Oui, on la trouve encore dans le lac, mais je sais pas si elle sera menacée. C'est vrai qu'on en attrape de moins en moins, étant donné que celle-là prend le dessus sur les autres.
Et cette écrevisse a la réputation de se développer très vite, et également de manger les alevins des poissons des lacs.
Si on prend le Léman, où elle est déjà introduite depuis plus longtemps, on s'aperçoit que les endroits où elle proliférait, ça se régule tout seul au bout d'un moment, ça se stabilise. Donc pour l'instant, on n'a pas spécialement d'inquiétude à avoir, mais on nous incite quand même à la pêcher le plus possible.
Magali et Jean, la légende raconte que c'est à cause non pas de vous, mais de vos prédécesseurs à l'auberge du Père Bise, cette invasion d'écrevisses, que s'est-il passé?
Eh ben apparemment ouais, ça serait Florent, il connaît très bien l'histoire aussi. apparemment ce serait le Père Bise qui aurait oublié un jour de fermer la cage à eau écrevisse et les écrevisses seraient parties dans le lac. Est-ce que c'est vrai, Flo, ça?
Ben il paraît, oui. En tout cas, on sait que le départ de la prolifération s'est produit à Taloir, oui, ça effectivement.
On m'a murmuré aussi que le Père Bise, il avait un petit coup dans le nez quand il a libéré ses écrevisses du Pacifique, vrai ou faux? On va pas faire de délation, hein, évidemment, mais ça peut être vrai, cette hypothèse?
Oui, bien sûr, oui. De toute façon, elles ont été amenées. Donc, à la base, c'était à l'auberge où ils pratiquaient la cuisine de cette écrevisse. Donc,
ça veut dire que déjà, à leur époque, il manquait un peu d'écrevisses autochtones parce qu'elles étaient touchées par une maladie qui est, je crois, la peste de l'écrevisse. Et du coup, il a fallu effectivement en importer de l'étranger, c'est ça?
Oui, ils avaient des casiers qu'ils laissaient dans le lac et où ils mettaient leur arrivage vivant qui arrivait.
Vous la pêchez à quelle période de l'année, cette écrevisse, Florent Capretti?
Alors, on attaque à la pêcher à peu près au mois de mai, mais ça va dépendre un peu de la température de l'eau. Donc, comme là, cette année, ça a été retardé un peu du fait du froid. Mm-hmm. Mais on va dire qu'on démarre entre avril et mai et jusqu'à la fin, à la fermeture de la pêche, vers le 15 octobre.
L'écrevisse, ce plat est intimement lié à l'histoire de l'auberge du Père Bise. Il y a même eu quelques plats emblématiques. Hein. Magali, il y a un certain gratin que venait goûter, par exemple, Winston Churchill.
Oui, ça, l'histoire de l'auberge du Père Bise, elle remonte en 1903 où oui. François et Marie donc achètent un petit chalet au bord du lac de Taloir, en font un débit de boisson, et puis arrive ensuite la deuxième génération, donc Marius et Marguerite, où Marguerite voilà tout à fait va devenir une des grandes cuisinières de France. Mm-hmm. Et ensuite, donc la troisième génération, on continue d'y faire le fameux gratin de queue d'écrevisse, donc avec François et Charline Bise.
Et vous faites toujours ce gratin, Jean, au fourneau de l'auberge du Père Bise?
Alors tout à fait, ce gratin, on l'a pas gardé sur ma table gastronomique, on l'a décalé sur la création du bistrot en 1903, où on a conservé cette recette que j'ai adaptée avec ma technique à moi.
Décrivez-nous les quelques étapes pour faire à la maison un gratin d'écrevisse sans trop entrer dans les détails, mais pour en avoir l'esprit.
Alors déjà, il faut des bonnes écrevisses, hein, pêchées par Florent Capretti. Ça, c'est très important. Non, et après, on fait une bisque d'écrevisse et on cuit nos écrevisses dans la nage. Et on met cette bisque dessus ces écrevisses et on laisse cuire ça au four. Et dans la cuisson du four, la bisque réduit, se concentre en sucre, en goût. Et ce qui est très intéressant dans cette recette, c'est une recette très gourmande avec une mâche de texture de l'écrevisse qui est ferme. Et c'est un plat qui est très généreux et très savoureux.
Là, vous nous avez préparé quoi ?
Alors, j'ai préparé justement les écrevisses, deux styles de cuisson d'écrevisses. Une cuisson qu'on apprend tous à l'école, c'est de chartrer l'écrevisse et de la cuire dans une nage. Mm-hmm. Et une autre cuisson d'écrevisses où on décortique l'écrevisse à cru. Et on vient justement caresser l'écrevisse dans une poêle tiède avec une huile d'écrevisse qu'on fait avec les têtes d'écrevisses. Et on peut s'apercevoir et goûter. Je crois que l'assiette elle est en train de se déguster là sur le plateau.
Qui a goûté ?
Et on peut voir justement les différentes textures. Ouais, et moi, je fais aujourd'hui une recette que j'associe avec un œuf de canne. Et je cherche à avoir une texture plus moelleuse.
Alors là, on a vraiment fait une expérience. On a eu la chance avec l'équipe dont on va déguster de vous rendre visite dans vos cuisines et vous nous avez fait goûter effectivement. Ce qu'on peut vraiment appeler un grand plat, une espèce de fulgurance, c'est cet œuf de canne extrêmement onctueux, avec comme ça des éclats d'écrevisses à peine cuites. On avait la sensation quasiment d'une chair pulpeuse d'abricot ou de fruits extrêmement juteux et un peu croquant en bouche, avec le safran.
Avec le safran qui était remarquable, qui venait ponctuer, c'était magnifique ça. Puis c'était rond, c'était cet œuf de canne qui est plus gras en plus qu'un œuf de poule, c'était une merveille ça.
Vous avez aimé le
J'ai adoré ça.
Oui, ce qui est très intéressant dans l'œuf de canne, c'est que le jaune est la puce de quantité de jaune d'œuf. Et donc je fais ma préparation qu'avec les jaunes. Et on a trois couches. Donc on a le sabayon au safran, on a ce crémeux de jaune d'œuf, on met de la ciboulette et aussi de l'huile d'écrevisse. Et à la fin, on vient disposer nos écrevisses avec la cuillère. Il faut vraiment aller jusqu'au fond pour obtenir l'écrevisse et avoir ces trois textures en bouche et ces saveurs qui viennent justement exalter le goût de l'écrevisse.
Florent Capretti, vous avez goûté cet œuf de canne aux écrevisses ?
Oui, j'ai goûté.
Un petit commentaire ?
Peut
mieux faire, c'est ça.
Non, excellent.
Excellent ?
Oui, j'ai adoré.
Caroline Joguet, vous avez planté votre fourchette dans les écrevisses poêlées.
C'est vraiment super bon, ouais.
Et un chanceux ou une chanceuse dans le public a également goûté. Vous vous appelez comment ?
Bonjour, je m'appelle Magali.
Bonjour Magali.
Donc j'ai goûté les écrevisses, c'était vraiment très bon, la chair est tendre et fondante. Avec un goût quand même très doux, mais le poivre qui vient un petit peu relever, c'est délicieux. Et je me demandais, est-ce que cette écrevisse-là a un goût différent de l'écrevisse qui était ici à la base ?
Question très intéressante. Est-ce qu'il y a une différence entre cette écrevisse du Pacifique et l'écrevisse autochtone du lac d'Annecy, Florent Capretti ou Jean ?
Pour moi, c'est sûr. Déjà, chaque variété a un goût différent. Et ensuite aussi, comme le dit très bien Flo, quand je suis avec lui au milieu du lac, le lac d'Annecy et les autres lacs, le poisson ou les écrevisses n'ont pas le même goût parce que la qualité de l'eau n'est pas la même.
C'est ça. Il y a déjà une différence aussi de gabarit puisque cette américaine est plus...
Alors le gabarit aussi, c'est qu'on a de la chance d'avoir un très bon pêcheur qui sélectionne les plus jolis gabarits pour l'auberge du Perbise.
Ça vit au bord ou ça vit au fond ?
Ça vit un peu partout, mais la profondeur où on les pêche quasiment tout le temps, c'est entre 8 mètres et 15 mètres.
Bah écoutez, bravo. Un petit vin qui pourrait s'accorder comme ça avec cette poulet d'écrevisse ou cet œuf de canne aux écrevisses qu'on a goûté hier, Antoine Gerbel ?
Petit, mais parce que vous êtes en Savoie, vous dites petit vin, c'est pas bien du tout ça. Non, beau vin. Ben là justement, j'ai amené un mélange de gringé et d'altesse. Donc gringé un peu sec, un peu serré, un petit peu mordant, et puis l'altesse qui est beaucoup plus généreuse.
Là on parle de cépage.
Et là on pourrait presque prendre mes mots et les poser sur le plat de Jean. C'est-à-dire que c'est très délicat comme chair, mais par contre la sauce, il faut aller la chercher, il faut lui donner quand même du volume. Donc voilà, on a les deux dans certains cépages blancs de Savoie.
Très bien, dans un instant, on évoque d'autres saveurs lacustres, mais également montagnardes, alpines, avec notre chevrière qui va nous raconter son fabuleux métier.
J'ai dans l'œsophage un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il disait, petite tête, ôte-toi de la cumimette, je me suis résigné. À le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin de crever de faim, soldat ou artiste, on est tous des tristes cirés malheureux qui manque d'estomac. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam.
miam, miam.
Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux. La bouffée des yeux, mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Je ferai des orphelines, et par la racine, je boufferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Miam.
Mambo, miam, miam, vous avez forcément reconnu le grand Serge, la gastronomie d'Annecy au menu dont on va déguster devant un public venu nombreux. Merci beaucoup. Avec Jean et Magali Sulpice qui tiennent les rênes d'une maison mythique autour du lac d'Annecy. C'est l'auberge du Père Bise, Florent Capretti, l'un des deux derniers pêcheurs du lac d'Annecy qui ne pêche pas que des écrevisses. On va s'en apercevoir dans un instant. Et puis Caroline Joguet, notre chevrière, qui va nous faire goûter ses délicieux fromages de chèvre fermier au lait cru dans un instant. Jean, vous n'en êtes pas à votre première dont on va déguster. On vous avait reçu notamment à l'époque où vous étiez chef du restaurant étoilé. Avec Magali déjà, évidemment, en salle, en directrice de salle. Dans le restaurant étoilé le plus haut d'Europe, c'était à Val Thorens, Loxalis, 2300 mètres d'altitude quand même. Qu'est-ce que ça fait de redescendre au bord du lac? En quoi votre cuisine a évolué dans cette dénivellation?
Déjà, je me suis aperçu que l'eau bouillait à 100 degrés. Alors qu'à Val Thorens, j'avais appris aussi avec le temps que plutôt monter en altitude, l'eau ne bouillait pas à 100 degrés, mais plutôt aux alentours de 90 degrés. Donc ça changeait.
Il a fallu vous adapter, ouais.
Sur les cuissons et aussi sur l'organisation de la cuisine. Une ambiance alpine, parce que 2003, c'est pas rien, c'est de l'altitude. Et aujourd'hui, le fait d'être redescendu sur les douceurs du lac, ça permet de revenir déjà à mes sources, que je suis né au bord du lac du Bourget, donc d'Aix-les-Bains. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de venir m'exprimer, non seulement dans l'auberge du Père Bise, parce que c'est une belle histoire, cette maison. Et aujourd'hui, avec Magali, on ouvre un nouveau chapitre, qu'on a envie de faire perdurer cette histoire. Et ma cuisine, elle s'inspire beaucoup avec cette cuisine lac et montagne, sur un environnement qui est très naturel. Et c'est ça, pour moi, c'est une continuité de ce que j'ai fait sur Val Thorens.
Vous avez déclaré à la presse, puisque vous avez été très médiatisé quand vous avez réouvert cette adresse légendaire, que vous étiez un peu plus calme, un peu moins foufou, que vous étiez apaisé. Est-ce que c'est l'effet du lac d'Annecy?
Oui, c'est tout à l'heure, là, un client qui dit mais c'est impressionnant comme on est apaisé par ce lac. Donc je pense que c'est le lac qui y est pour beaucoup. Là, Magali, je me suis apaisé quand même. Hein.
Sans commentaire.
Mais en tout cas, dans l'assiette, il y a un plat qui marque certainement votre apaisement. C'est un plat dont on entend beaucoup parler, qui est tout à fait étonnant, qui est une espèce de jumelage culinaire entre la Savoie et le Piémont. Racontez-nous, c'est Pline d'escargot. On peut déjà dire que Pline, ravioli del Pline, on en mange à Turin et dans tout le Piémont. C'est évidemment ce petit ravioli carré piémontais que là vous farcissez justement d'escargots extrêmement locaux, puisque la plupart de vos produits sont évidemment issus du terroir très très local.
Eh ben, cette recette, elle s'est imaginée comme toutes mes recettes. C'est à la rencontre de mon producteur Philippe Héritier, qui fait aussi du vin. J'étais allé le voir pour ses escargots, et quand j'ai vu ses escargots, ils étaient vraiment dans un environnement d'herbe. Et je me suis dit, mais pourquoi on l'associe toujours, les escargots, avec du persil et de l'ail, alors que ça vient écraser ce produit-là? Et donc je me suis dit, il faut que je retrouve une sensation de remettre, d'enfermer l'escargot dans sa coquille, d'où cette pline, parce qu'en Savoie on a des souches du Piémont, donc on n'est pas chauvin et on s'ouvre. Et j'ai mis cette crème d'herbe, donc j'ai associé donc l'escargot dans une crème d'herbe avec six sortes d'herbes, persil, ciboulette, aneth, coriandre, estragon et menthe. Et le fait
l'escargot dans son biotope.
C'est ça. Le fait de l'enfermer, qu'on met en bouche, eh ben, on a une explosion de saveur et on a la mâche de l'escargot qui vient en bouche.
Et c'est effectivement une explosion. C'est tout à fait surprenant en termes de texture. Magali, la force historique de cette maison, c'est d'avoir toujours été tenue par un couple fort.
Exactement. C'est vrai qu'à l'origine, hein, toujours un couple dans cette maison. François, Marie, Marius et Marguerite. Les deux premières générations, les femmes en cuisine. Et puis à partir de François et Charline, donc c'est, ça s'inverse. Mais depuis le départ, et je crois que ça continue encore avec les Sulpices, deux caractères bien trempés de chaque côté. Oui.
Et vous, vous êtes par ailleurs, vous embrassez la fonction de sommelière.
Oui, tout à fait. Enfin, des origines de Val Thorens, voilà, j'étais sommelière et je m'occupais beaucoup de la salle. Maintenant, il est vrai qu'avec la reprise de l'auberge du Père Bise, il y a aussi un hôtel de 23 chambres qu'il faut gérer. Bien sûr, ça a été un nouveau métier aussi pour nous, une vraie découverte, mais un vrai plaisir. Donc aujourd'hui, je me suis un petit peu écartée, mais sans pour autant, enfin, avoir toujours quand même au cœur le plaisir du vin et de la table, bien sûr.
On va bien entendu échanger un peu autour du vin avec Antoine Gerbel dans un instant, mais juste avant, vous évoquiez Marguerite Bise, deux destins féminins en cuisine, avec Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
Marguerite Bise, Elvira Masson.
Quel phénomène Marguerite Bise, je crois, non ? Elle était la belle-fille de François Bise, donc le fameux père Bise. Elle était la femme de son fils Marius. En 1928, Marius transforme l'auberge en hôtel qui reçoit toutes les personnalités de l'époque. On l'a déjà évoqué. Mais c'est Marguerite en cuisine qui obtient 3 étoiles au guide Michelin. Il faut quand même s'imaginer se remettre dans le contexte de l'époque. Elle est la 3e femme de l'histoire à les obtenir après Eugénie Brasier, la mère Brasier, Marie Bourgeois, la mère Bourgeois. Alors bizarrement, on l'a pas appelée la mère Bise, sans doute parce que la place était déjà prise par le père Bise,
ah oui.
Si vous suivez. D'ailleurs, sur sa fiche Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, une fiche Wikipédia, mais parfois c'est un indice, on lit que Marguerite Bise, née en 1898 dans le 10e arrondissement de Paris, et morte à Talloire en 1965, était, et je cite, deux points, ouvrez les guillemets, une chef cuisinier française. Je me suis dit qu'à un moment, il fallait peut-être accorder.
Et chef,
est-ce que c'est chef? Ah bah oui. Oui, EF, donc peut-être cuisinière française. Bon, je ne sais pas grand-chose de plus de Marguerite Bise. Vous avez un petit livre, Magali, on la voit entourée de sa brigade, sinon qu'elle devait avoir un sacré caractère, et qu'on lui doit la recette de la célèbre poularde de Bresse à l'estragon et le fameux gratin de queue d'écrevisse. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on dit écrevisse en anglais?
Ah.
Allez, François Régis.
J'ai comme un trou, je ne suis pas allé assez en Louisiane.
C'est ça. On dit crayfish.
Ah, mais oui, oui.
Mais dans le sud des États-Unis, en Louisiane, justement, on dit plutôt crawfish. Et ce fameux crawfish ou crayfish entre dans la composition de nombreuses recettes cajun, cette cuisine qui charrie tous les apports de toutes les migrations qui la composent, africaines, amérindiennes, espagnoles, françaises. Alors, l'écrevisse, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, on la cuit à l'étouffée, on la frit, on la prépare en gumbo, en jambalaya, toutes ces recettes locales. À la Nouvelle-Orléans, il y avait une femme, une chef, une cuisinière, qui savait la préparer comme personne. On la surnommait la Queen of Creole Cuisine, la reine de la cuisine créole. Elle s'appelait Lea Chase. Elle est morte il y a très peu de temps, le 1er juin dernier, à 96 ans. Lea Chase tenait le Dookie Chase, du nom de son mari, fameux trompettiste de jazz. Mythique restaurant de cuisine créole. Alors, mythique à bien des égards. Premier et unique restaurant de fine dining réservé aux Noirs, à une époque où les grandes tables de la Nouvelle-Orléans, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui, le Galatoire's ou Antoine's, étaient interdites aux Noirs. C'est elle, Lea Chase, qui a transformé la petite échoppe de sandwich de ses beaux-parents, encore une histoire de belle-fille et de beaux-parents, en restaurant en 1946. C'est elle qui régnait sur la brigade, qui collectionnait les œuvres d'art créole qui sont encore aujourd'hui accrochées au mur du restaurant. C'est elle qui a levé des fonds sans relâche pour reconstruire la ville dévastée par l'ouragan Katrina. C'est elle qui engueulait Obama, on le voit sur des photos, serviette au cou, parce qu'il se permettait d'ajouter du piment à son gumbo, le plus grave des péchés culinaires selon elle. C'est elle surtout qui, des décennies plus tôt, recevait, nourrissait dans la salle à l'étage du Dookie Chase, James Baldwin, Sarah Vaughan, Duke Ellington, Ray Charles et bien sûr Martin Luther King. Tous ces militants anonymes aussi du Civil Rights Movement, blancs et noirs, se retrouvaient ensemble alors que c'était interdit par les lois ségrégationnistes et jamais la police ne venait les séparer. C'est elle qui disait « Chez moi, on a changé le cours de l'histoire de l'Amérique autour d'une assiette de poulet frit ». Elle disait également « Pour être une femme, il faut ressembler à une fille, se comporter comme une lady, penser comme un homme et travailler comme un chien. Penser comme un homme et travailler comme un chien, je m'avance peut-être un petit peu, mais je me dis qu'il y a fort à parier que Marguerite Bise ne l'aurait pas contredite. Et les écrevisses en commun.
Qu'en pensez-vous de ce destin incroyable, comme quoi l'écrevisse peut être un trait d'union entre deux grandes cuisinières des deux côtés de l'Atlantique ?
Oui, c'est incroyable comme destin, et comme vous le soulignez très bien, ça aurait pu tout à fait convenir à Marguerite.
C'est quelque chose, la photo du petit bouquin, elle est bras croisés comme ça.
Exactement,
sa brigade,
d'hommes, y compris son fils. Hein,
ça devait filer droit, oui.
Parce que François a travaillé pour sa maman quelques années. Il était très fier de sa maman, mais comme il a pu l'écrire aussi, mais il en avait aussi très peur.
Ouais, ça m'étonne pas.
Transition toute faite vers une autre affaire de femme, un autre destin de femme, même si celui-ci est assez naissant, c'est celui évidemment de Caroline Joguet. Quand Jean Sulpice nous a conseillé de vous contacter, car on doit rendre à César ce qui lui appartient, c'est Jean qui nous a parlé de vous, Caroline, il m'a dit, parce qu'on se tutoie dans la vie avec Jean, on se connaît depuis assez longtemps, accroche-toi, c'est une sacrée nana. C'est pas très fréquent d'être... une femme agricultrice et en plus jeune dans un milieu assez compliqué. Tiens, ce serait la première question. Qu'est-ce qu'on en pense dans votre entourage ? Comment on perçoit le fait que vous soyez une femme ? On en a reçu beaucoup sur ce plateau et certains nous ont raconté à quel point ça pouvait être difficile d'embrasser une carrière de paysanne ou d'agricultrice dans un milieu quand même très testostéroné. Caroline Joguet.
Ben, il faut faire sa place, il faut prouver qu'on est capable d'être chef d'exploitation. J'ai eu de la chance, c'est que je suis fille d'agriculteur et ma mère est déjà chef d'exploitation. Ma mère a eu ces difficultés-là de faire sa place. Et moi, par la suite, non, ça n'a pas été évident de prouver qu'on est capable, comme un homme, d'élever un troupeau.
Il y a beaucoup de femmes dans votre famille qui ont été importantes, puisqu'il y a également votre grand-mère Octavie. Je crois même que c'est elle qui vous a transmis la passion des chèvres. Puisque vous êtes plutôt vache dans la famille, vos parents élèvent des vaches, donnent leur lait pour la fabrication du Beaufort. Vous êtes donc à Arèche, hein, dans la vallée du Beaufortin.
C'est ça. Ben la passion, j'étais très très fan de ma grand-mère Octavie, et c'est vrai que c'est Octavie qui m'a donné l'amour des chèvres et surtout de la fabrication fromagère.
Pourquoi vous aimez les chèvres ?
Alors, j'ai toujours été très attirée par les chèvres parce que c'est un animal qui est très coquin, affectueux. Et c'est vrai qu'on peut vraiment créer une histoire, une belle histoire avec ces animaux-là.
Alors, vous avez choisi, évidemment, on est dans les Alpes, une race particulière qui est tout à fait adaptée à ce territoire.
L'alpine, originaire des Alpes. Donc, on peut vraiment la comparer à la tarine.
Là, vous parlez d'une race bovine, hein, la tarine.
C'est ça. Oui, parce que comme je suis dans la zone Beaufort, c'est vrai que j'aime bien comparer ma chèvre alpine à la tarine, qui est une vraie montagnarde.
Vous avez 90 chèvres. Et alors, vous tenez plus que tout au monde à leur bien-être. Et leur bien-être, ça passe aussi par leur activité, la façon dont elles gambadent dans les alpages. Racontez-nous la vie de vos chèvres, c'est incroyable.
Ben, moi, depuis toute petite, je suis toujours montée en alpage avec mes parents. Pour nous, c'est hors de question de laisser nos bêtes dedans. Donc, pour nous, elles doivent pâturer au maximum, manger de l'herbe au maximum aussi. Et c'est vrai que nous, la montagne, c'est toute notre vie, quoi.
Vous avez donc 90 chèvres, on l'a dit, vous produisez un lait que vous transformez, et ce lait est évidemment, je vous pose même pas la question, mais enfin, il faut quand même le dire, mais c'est cru, fondamental.
Ah oui, très très important, oui, moi je conçois pas de pasteuriser mon lait, hein. Pour moi c'est vivant, c'est l'identité d'une exploitation, c'est notre patrimoine, et non, je conçois pas de pasteuriser.
Vous faites deux fromages typiques, qui ont énormément de succès. Le buzz autour de la qualité de vos fromages est vraiment impressionnant, hein, vous le confirmez, Jean. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter chez vous, justement, les fromages de Caroline Joguet. Il y a quelque chose de vivant et de gustativement très, très fort qui se passe sous le palais.
Non, là, quelque chose de très, très fort, qui gustativement, par la qualité, justement, de ce lait, parce que là, un alpage qui est fort, qui a beaucoup de diversité de plantes et de gourmandises, et qui fait la qualité de ce lait. Après, aussi, l'affinage qui rentre en compte, qui est important. la qualité aussi de la ferme qui est tenue. Quand on va voir Caroline, moi j'ai toujours été, j'étais impressionné par la rigueur pour que justement que le procédé soit fait comme il faut, et ça se ressent en cuisine. On parle de rigueur, mais même aussi dans l'agriculture, elle ressent après gustativement.
La rigueur, on l'a justement sur ce plateau avec les deux spécialités que vous nous avez apportées. Commençons par évoquer le Grataron d'Arèche. Ce n'est pas un fromage protégé par un signe officiel de qualité, ni IGP, ni AOP. Vous en avez pas forcément besoin, d'ailleurs, vous m'avez dit. Mais en tout cas, ça reste un fromage traditionnel qui était pratiqué, fabriqué dans les familles.
Le Grataron, c'est vraiment le fromage typique du Beaufortin en lait de chèvre. C'est une pâte pressée non cuite, donc en chèvre, c'est très rare de trouver ce fromage dans cette forme-là.
Est-ce que je fais un raccourci si je dis que c'est un reblochon de chèvre ?
On peut dire que le processus de fabrication ressemble au reblochon, mais l'affinage n'est pas le même du tout.
L'affinage n'est pas le même, mais on reste sur une texture effectivement très molle. Est-ce qu'on a une réaction sur ce Grataron d'Arèche? Ah oui, il y a quelqu'un qui l'a goûté dans la salle. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Vous vous appelez comment?
Géraldine. Tout d'abord, avec mon amie Elodie, on a pu déguster vos fromages. Et c'est vrai que la première chose qui nous vient déjà à l'esprit, c'est que les goûts sont très subtils. Et c'est appréciable d'avoir du fromage de chèvre qui ne nous prend pas tout en bouche sur la première bouchée où on sent plus que le goût de la chèvre. Là, ça vient au fur et à mesure, c'est vraiment très, très subtil et délicat. Après, mon autre question, alors c'est vrai que c'est peut-être nos origines un peu savoyardes, mais le Grataron avec sa forme et puis sa croûte, est-ce que c'est un fromage qui peut se cuisiner chaud?
Question à Caroline Joguet.
Moi, c'est vrai que je préfère déguster du fromage
brut et
sec,
nature.
Brut et nature.
Ouais.
Après, Jean sera plus capable de parler de cuisine que moi, mais on peut tout à fait le manger en cuisine, quoi.
Et votre seconde spécialité porte, alors là, un nom que vous avez déposé avec un fromager affineur très célèbre, reconnu évidemment pour son exigence.
Hervé Mons, qui est un affineur, un grand monsieur du fromage.
Basé à Roanne, hein,
à Roanne,
dans la Loire.
Voilà, que j'ai eu une grande chance de croiser son chemin et que ça a collé entre nous. C'est vrai qu'on forme une bonne équipe et du coup c'est Hervé qui m'a lancé dans ce projet de fromage et du coup c'est super pour moi. Quoi.
Comment le définir pour ceux qui nous écoutent? On est plutôt dans la famille du Vacherin.
C'est ça. C'est en fait un Vacherin fabriqué avec du lait de chèvre. Donc un fromage qui est quand même très très dur à fabriquer, parce que la composition du lait de chèvre nous donne pas des avantages pour ce fromage, donc ça a été un beau pari.
Est-ce que Plancherin, ça viendrait du fait que ce fromage, cette espèce de Vacherin de chèvre, est affiné sur des planches d'épicéa ou rien à voir?
Planche, on a voulu valoriser les planches, le bois. Parce que ça fait partie du patrimoine du fromage. Et puis tout simplement parce que j'habite sur le hameau des Plans. Donc voilà.
Ah, c'est ça. Très bien. On va profiter d'une petite pause musicale pour faire goûter une autre spécialité fromagère signée Jean Sulpice. De quoi s'agit-il?
De la mousse de Beaufort.
Eh bien écoutez, on va faire goûter ça. Vous allez voir, c'est aérien, mais ça a un bon goût de fromage. Et puis Elvira va nous faire déguster une surprise gourmande qui nous vient d'Annecy. On va parler aussi évidemment vin avec Antoine, Gervel et Magali. Et puis on va parler de quelques autres poissons du lac avec notre pêcheur Florent Capretti. Mais tout ça, c'est juste après Vampire Weekend, This Life. Baby, I know pain is as natural as the rain. I just thought it didn't rain in California. Baby, I know love isn't what I thought it was. Cause I've never known love like this before. Oh. I've been cheating on you.
You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all is suffering.
Déguste les saveurs d'Annecy devant un public qui a de l'appétit. Merci beaucoup d'être là au cœur de l'Imperial Palace dans la salle de l'Europe. Le Festival international du film d'animation d'Annecy s'est achevé hier samedi et merci beaucoup d'être là. Il y a des nuages qui sont en train de traverser la salle de l'Europe. Ce sont des nuages de Beaufort, une mousse de Beaufort signée Jean Sulpice, le chef cuisinier 2 étoiles Michelin. On l'avait pas dit, hein, mais c'est important, de l'auberge du Père Bise. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Ah, les mains se lèvent. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez comment?
Stéphanie.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour. Bon, c'est très très bon, forcément. Hein.
Ah, il commence à suer un peu,
Jean-Philippe. Très très aérien, le goût du Beaufort qui arrive tout de suite en force, sans être gras. Et il y a toute la fraîcheur des herbes et le craquant de la noisette qui...
Eh oui, le Piémont n'est pas loin.
Eh ben oui,
la
c'est
noisette,
ça.
La noix du torréfiée.
Oui, tout à ça.
C'est régalé.
Alors cette recette, comme toutes les autres, Jean, vous nous avez fait la gentillesse de nous les fournir, donc elles sont disponibles pour tous ceux qui nous écoutent et pour vous, cher public, sur franceinter.fr à la page On va déguster. Mais juste le principe de cette mousse de Beaufort, qui est très accessible techniquement à condition d'être un peu équipé.
Oui, il faut donc un siphon à chantilly et c'est du Beaufort qui est mixé dans de la crème. Et on le met dans cet appareil à siphon, on met la cartouche de gaz, on la met au froid, on mélange et ça sort cette mousse, cette chantilly de Beaufort très aérienne.
Cette chantilly de Beaufort, c'est ça.
Et dessus, on vient mettre une réduction de betterave qui va venir justement, vous avez parlé de force, bah, cette réduction de betterave va venir exalter ce goût de Beaufort. Et on met quelques noix, quelques noisettes, et le carvi qui est la famille du cumin, une plante que j'apprécie beaucoup, qui est légèrement mantelée. Je pense que Caroline aussi, elle en a plein dans ses alpages. Et on vient mettre un peu de livège, de l'achillée millefeuille, de la pimpronelle, qui a le goût de noix aussi. Donc on vient reconstituer l'alpage avec tout plein d'herbes qu'on a, soit dans notre jardin, ou peut-être dans la pelouse, ou qu'on va chercher naturellement dans l'alpage.
Il ne faut pas oublier que Jean Sulpice a fait un bon bout de chemin avec un certain chef au chapeau noir,
oui,
Marc Vera, qui a fait découvrir à beaucoup de gourmets le plaisir, l'art de la cueillette sauvage en montagne. Alors, on parlait d'une surprise apportée, transmise par Elvira, on va dire. Mais
je ne suis pas pour grand-chose.
On peut juste dire qu'il s'agit un peu là, comme ça, d'une grosse tourte qui circule. Ouais. Ben, y a Jean qui a quasiment
que
fini.
Que c'est
d'ailleurs
un peu moins aérien que la mousse de Beaufort.
C'est sûr.
Hein, mais
Jean, petit commentaire.
Hyper bon.
On vous a pas du tout dit ce que c'était.
Bah non, ça ressemble à une tourte, effectivement.
Mais c'est ça, c'est une tourte.
Et ce qui est très intéressant, c'est que on a des notes un petit peu de cannelle, je sais pas si c'est de la cannelle ou du quatre épices, et que j'aurais pas imaginé de mettre ça, d'associer de la cannelle, et je pense que là de la blette. Et c'est très intéressant parce qu'on a un côté sucré-salé qui, on sait pas si c'est un dessert, si non, c'est vraiment très bien d'habitude.
Bon. Très bon, oui.
Ouais.
Oui, même s'il n'y a pas de poisson dedans?
Non, non. J'apprécie aussi, oui.
Alors?
C'est une tourte préparée à Annecy, mais qui a une origine québécoise. C'est une tourte de cochon fermier. Ketchup de pomme, c'est la petite sauce à côté. Cannelle, girofle, muscade, donc bien vu. Un petit peu de blette, en effet, Jean. Et elle nous vient de la piscine Kamouraska, qui est une petite adresse séparée par un couloir de nage du bistrot principal qui s'appelle Kamouraska. Mmh. Une adresse tenue par un couple formidable.
Ah, on les aime.
Jérôme Bigot, Marie-Hélène Tardif.
Mmh. On peut les applaudir,
ah ouais,
d'ailleurs.
Ils sont formidables.
Qu'est-ce qu'il connaît dans la salle de Kamouraska? Cette formidable table d'amour, de sentiments. Vous aimez ou pas? Ah oui, là, ça opine du chef partout. Le Kamouraska a réussi à s'implanter en peu de saisons dans le paysage.
Et c'est la 3 ans. Et c'est la preuve qu'Annecy est une ville qui attire beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de talents venus d'un peu partout, puisque Jérôme avait fait un passage dans Lyon, où il avait un petit bistrot.
À Lindry.
Exactement. Marie-Hélène nous vient du Québec. Et ils sont super engagés. C'est-à-dire que les vins sont exclusivement des vins nature. C'est Marie-Hélène qui s'occupe plutôt de la partie vin. Et à la piscine Kamouraska, on est uniquement dans des produits locaux, bio, pratiquement autarciques, en vrac, pas d'emballage plastique, zéro déchet, les contenants sont consignés, il n'y a même pas de serviette en papier, donc vous débrouillez. Si vous avez du gras, gras sur le visage, ça nourrit les mains, voilà, bah pourquoi pas, après tout. Et elle propose, il propose des recettes à la piscine, toutes simples, des tourtes, salades, sandwich du jour, kéfir maison, limonade maison.
Le Kamouraska.
Vertueux, sain,
vertueux,
vert.
Et c'est ça. Et, ouais. Et sa petite sœur, là, à piscine de Jérôme Bigot et sa compagne québécoise Marie-Hélène Tardif. Ils font un sacré boulot, ces deux-là. Et merci beaucoup pour cette fabuleuse tourte.
Recette de la grand-mère de Marie-Hélène.
Recette de la grand-mère de Marie-Hélène. Donc décidément, les cousinages transatlantiques sont très importants aujourd'hui.
Ouais.
Comment ça se passe, Florent Capréty, la journée d'un des deux derniers pêcheurs du lac d'Annecy?
On commence le soir, en fait.
Mm-hmm.
Donc on va poser les filets vers 19h. Et au matin, entre 4h30 et 5h, on attaque la relève. On en a à peu près pour 2h. Puis après, je distribue aux restaurateurs et grandes surfaces le produit de la pêche. Après, il faut démêler les filets qu'on a mis au lac. Et on repart le soir pour remettre.
Et aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que vous avez relevé dans vos filets ?
Là, en ce moment, on pêche essentiellement la ferra, un tout petit peu d'omble et les écrevisses.
La ferra, c'est un peu le poisson star. J'ai les statistiques de votre pêche. Vous pêchez tout au long de l'année, ferra 4 à 6 tonnes. Et vous me disiez en plus que les stocks, et c'est une bonne nouvelle quand pleuvent tous les jours des mauvaises nouvelles sur le plan écologique, les stocks se portent bien.
Oui, depuis que j'ai commencé la pêche, il y a 11 ans, on a quasiment pas doublé, mais pas loin les prises. On ne fait pas du tout de la pêche intensive. Nos filets sont déterminés par les scientifiques qui suivent le lac tout au long de l'année. Et la taille des mailles, la longueur, la hauteur est déterminée en fonction de la ressource. Donc la maille détermine l'âge du poisson, c'est-à-dire que quand ils sont trop petits, ils passent à travers. Et ils déterminent que tant qu'ils ne se sont pas reproduits au moins deux fois, on ne doit pas les prendre en pêche.
Si vous êtes deux pêcheurs professionnels sur le lac d'Annecy, est-ce que vous êtes les deux seuls à vouloir faire ce métier ou est-ce que le nombre de licences de pêcheurs professionnels est limité?
Non, le nombre de licences est limité. C'est déterminé, pareil, avec la préfecture et les scientifiques pour que l'on puisse vivre de notre métier. On nous donne les moyens de pêche pour qu'on puisse en vivre décemment, mais on limite le nombre de pêcheurs.
Est-ce qu'on peut pratiquer la pêche en amateur sur le lac d'Annecy?
Oui, bien sûr. Il y a à peu près 1000-1200 pêcheurs amateurs sur le lac d'Annecy. On prend des perches, de l'ombre, de la ferra, du brochet, de la truite.
La ferra, poisson tout à fait étonnant, on en dit un tout petit mot, Jean, parce qu'il est au cœur de vos assiettes évidemment. Il a une texture même parfois un peu surprenante en bouche. Il est soyeux, il est presque un peu glissant, il est très sensuel.
Oui,
ça... elle, je devrais dire elle, hein, c'est la ferra.
C'est la ferra.
Non, c'est un poisson que j'apprécie beaucoup, qu'on peut cuire sur plusieurs façons, aussi bien poché que poêlé, rôti. Les recettes traditionnelles de ces poissons de lac étaient plutôt meunières. On venait justement les cuire dans avec beaucoup de générosité de beurre mousseux. Et moi aujourd'hui, justement, après réflexion et observation, j'aime bien les cuire dans une eau de vapeur qui vient venir respecter la chair de ce poisson, garder justement ce moelleux et l'agrémenter d'une saveur qui vient l'exalter, quoi.
Florent Capréty, c'est de la famille des salmonidés, la ferra?
Oui, la famille des salmonidés.
Vous pouvez nous le décrire en un mot pour ceux qui ne l'ont jamais vu?
Le poisson, c'est un poisson...
Ah, il y en a un là, il est en train de le brandir, ouais, j'en suis
un poisson gris, argenté, avec des écailles assez grosses, assez allongées, avec une toute petite tête.
Pas vraiment poisson.
Non mais c'est incroyable, là, vous le tenez carrément par la tête et là, il est raide. On peut dire qu'il est frais, hein.
Oui, là, il est frais. Oui. Il est de ce matin.
Votre poisson pour les gens qui vivent dans le coin, on peut le trouver. Il est.
Oui, oui.
On peut se le procurer.
Il est accessible. Je sers quelques grandes surfaces sur Annecy et aux alentours.
Il est cher, ce poisson des lacs?
Non.
Alors en Haute-Savoie, on parle jamais de prix, hein.
Ah, ouais. Ça y est, je mets les pieds dans le plat.
Non.
Un prix au kilo dans une, bon, allez, dans des supérettes dont on nommera pas les enseignes.
À peu près 15 euros le kilo.
D'accord. Donc c'est raisonnable.
Pour un poisson sauvage, c'est plus que raisonnable.
Évidemment. Et pour un poisson pêché, encore une fois, artisanalement, de manière très douce, bravo pour le beau métier que vous faites. C'est réjouissant d'avoir à ses côtés comme ça des artisans pleins de conviction. Et si on passait au verre, enfin.
On va déguster sur France Inter.
Le vin avec Antoine Gerbel, également Magali. Oula, bravo. Réussi pour une fois. Un pop bien sec.
Il
y en a qui ont soif dans le public, j'ai l'impression. Hein. Vous, en même temps, vous êtes un peu équipé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouteilles devant vous. Ça va, Antoine?
J'ai toujours peur de manquer.
Oui, c'est ça.
De temps sûrement pour parler de la Savoie, parce que c'est un tout petit vignoble, 2000 hectares, mais... Et en ce moment, il se passe tellement de choses. Petit vignoble, mais très éparpillé. Je rappelle, hein, il y a quand même 3 lacs et les vignes sont à peu près partout. Mais quand vous êtes au nord d'Annemasse et que vous descendez... D'ailleurs, ne regardez jamais les kilomètres. Je ne parle pas aux Savoyards, bien évidemment, ils le savent. Ne regardez jamais les kilomètres sur votre GPS, mais le temps. Parce que moi, il m'est arrivé dans mes jeunes années de me balader dans le vignoble savoyard et je me dis, oh, ben, ça va en 15 kilomètres. Pouf, en 10 minutes, j'y suis. 45 minutes, j'arrivais tout juste. Donc, j'avais pris beaucoup de retard.
C'est ça.
Ce vignoble, pourquoi il bouge en ce moment? Parce qu'il y a beaucoup il y a plein d'atouts en ce moment. Déjà, il y a une viticulture familiale, paysanne. On a parlé de l'élevage tout à l'heure. Mais dans les familles traditionnelles, on faisait de l'élevage, on faisait un peu de vigne. En bas de coteau, on faisait des céréales. Et on retrouve dans la mentalité des vignerons d'aujourd'hui cette volonté de ne pas être monoproducteurs. Ils aiment, comme dans le Jura, partager leur environnement avec différents métiers de la terre. Et ça donne une philosophie aux vignerons qui est un peu particulière aussi. D'abord, il y a aussi... les cépages qui sont très originaux. Ici, on parle de Jacquère, de Roussette, de Roussanne, d'Altesse, de Mondeuse, de Persan. C'est des très jolis mots, ça. Et tout ça, c'est très précis puisque ça parle de cépages endémiques de la région qui se promènent, bien évidemment, un peu au-delà des frontières. On en parlera avec Magali. La Savoie historique, elle est très vaste puisqu'on, les Alpes, bien évidemment, c'était pas une frontière. Le Val d'Aoste, on descend, après on va dans l'Ain, dans l'Isère. Et on descend même jusqu'au duché de Nice puisque, voilà, la Savoie historique, elle était très, très grande.
Vous faites allusion au vin de Belay qu'on a goûté chez Jean Sulpice.
Qu'on nous a servi à l'aveugle et j'ai dit que c'était un vieux, je me suis planté. Lamentable.
Bah oui, ça rend modeste hein, la dégustation à l'aveugle.
Le troisième critère aussi important, ce sont les millésimes. Les années sont de plus en plus chaudes et ces années chaudes, bien évidemment, avantagent les vignobles d'altitude comme les vignobles de Savoie. Et particulièrement les rouges, parce qu'on va parler des rouges. Magali nous dira peut-être un mot sur les blancs, mais moi j'avais envie de vous parler des rouges. Alors production des rouges, c'est très petit, hein, si on est à peu près 20%, et même on inclut les rosés à l'intérieur, donc petite production, mais qui est en train de monter. La Mondeuse, ce cépage, qui est le cousin, la cousine de la Syrah, a cette particularité de mûrir tardivement, encore une fois, imaginez une organisation paysanne où il faut les rentrer les foins, il faut les souquer plein de choses, et puis la vigne, on ne vendangeait pas au mois d'août, on vendangeait au mois de septembre, plutôt au mois d'octobre. Et cette mondeuse, ces 3 derniers millésimes, elle a gagné presque 1 mois de maturité. On rentre aujourd'hui des mondeuses mi-septembre, alors que traditionnellement, on les rentrait mi-octobre. Qu'est-ce que ça change au niveau du goût? Ça change que c'est plus mûr, donc c'est plutôt pas mal, parce que les tanins de la mondeuse, ils sont quand même assez anguleux. Ça cogne un petit peu, ça râpe un petit peu sur le palais. Et je vous ai amené dans votre verre un couple de jeunes vignerons. Alors, j'ai pris la route ce matin.
Ah, vraiment, hein.
À l'heure où Elvira était encore sous sa couette.
C'est pas faux.
Je lui ai proposé, elle m'a dit non, on part pas 8 heures.
Bon. On dort pas ensemble, hein.
Oui, non, mais parce que.
Non.
Je commence à me demander, mais.
La chambre à côté, bien évidemment. Je suis parti sous la brume, abandonné Elvira sous la couette. Et 40 minutes plus tard, je suis descendu, j'ai pris une très belle route qui est le Val du Fier. C'est Pierre
Val du Fier.
Ah, ils suivent.
Ça suit dans la salle, ça suit, c'est bien.
Ça suit, c'est bien.
Ils sont endormis dans la salle.
Et je l'ai souligné à exprès, hein.
C'était volontaire.
Val du Fier, qui est des gorges magnifiques. Et on arrive aux berges des Rhônes, des deux Rhônes, le sauvage et le canalisé, puisqu'on est à Chautagne. Et là, j'ai redécouvert un jeune couple qui s'appelle Marie et Florian Curtet. Ils ont commencé, eux, depuis pas très longtemps. Leur premier millésime, c'est 2017. Mais il y a une passation. Ça, c'est une belle histoire parce qu'ils ont pris la suite de Jacques Maillet, qui est un grand, grand vigneron savoyard. Et Florent a travaillé avec lui. Ils signent leur premier millésime 2017. Je vous ai mis leur cuvée votre verre, ça s'appelle Frisson des Cimes. Mmh. J'étais dans les vignes ce matin, elles sont magnifiques, elles respirent la vie. En face, on a l'Ain, donc on jette un coup d'œil sur le Jura qui s'avance. Et on a aussi, dans ces rouges, on a gagné beaucoup en élégance, sans perdre le côté naturel. Moi, je suis, ça me rappelle mon enfance, quand de temps en temps, je suis tombé sur des vraies myrtilles qu'on cueillait et que le fruit vous éclate comme ça au palais. On a cette énergie de fruits dans cette cuvée. Alors, les Curetais, ils font partie d'une jeune génération. J'ai amené pourquoi plein de bouteilles sur la table, parce que j'ai fait un tour. Il y a des super cavistes à Annecy. Je vous rappelle qu'il y a Java des Flacons qui a été classé meilleur caviste de France. Il y a 7 ou 8 très bons cavistes, comme de très bons restaurants. Et là, en ce moment, vous avez sur la table, j'ai amené des jeunes. Là, vous avez le domaine de l'Étonnement qui a fait une mondeuse magnifique qui s'appelle Darkside, la face cachée de la mondeuse. Plus près, on a le domaine des orchis que connaissent bien les Sulpices, puisqu'il est le fournisseur officiel des escargots pour le plat dont on a parlé. Mais la famille Héritier fait une très belle mondeuse.
Les vignerons, ils fournissent des escargots aussi.
Oui, et en biodynamie en plus, ils se facilitent pas la tâche. Mais ça, c'est tout proche d'Annecy, ça, on peut y aller. Et puis, là, un petit jeune, aussi un petit dernier, qui s'appelle Mathieu Eiffel. Et là, c'est son vin de Savoie, c'est sa mondeuse 2017 que j'ai amené aussi parce qu'elle est pas très chère. Je vais parler aussi des prix, 2 minutes, parce que c'est un vignoble qu'il faut travailler en coteaux. Aujourd'hui, on va dans cette viticulture pour vraiment s'exprimer complètement. Donc, une mécanisation minima. J'évoque bien évidemment pas la bio et la biodynamie, mais elle est partout présente, en tout cas la jeune génération. Donc, les rendements sont beaucoup plus faibles qu'avant. C'est-à-dire qu'une mondeuse, avant qu'on servait il y a 30 ans dans les stations de sports d'hiver, ça faisait 100 hectolitres hectares. Aujourd'hui, on est redescendu à 30, 25, 30. Donc, des petits rendements, beaucoup de travail. Chez les Curetais, par exemple, 4 personnes pour 4 hectares, 1 personne par hectare, ça coûte de l'argent, mais vous l'avez vraiment le résultat dans le verre. Alors, une mondeuse, c'est aujourd'hui entre, ce que j'ai amené, c'est entre 17 et 27 euros. Donc, c'est une somme, c'est vrai, c'est un certain prix, mais c'est un vrai, vrai voyage.
Très bien, merci beaucoup Antoine Gerbel. Alors essentiellement des rouges, mais Magali, mais évidemment des blancs aussi. Et la Savoie est évidemment une terre de vin blanc, et il y en a beaucoup à la carte de l'auberge du Perbise.
Oui, bien sûr, la Savoie historiquement, enfin, on connaît aussi surtout la Savoie pour ses vins blancs, qu'on peut redécouvrir quand même aujourd'hui au travers de très belles appellations comme l'Apremont, qui a été plutôt mal connue, qu'on peut retrouver. Et donc historiquement, juste un petit rappel, la Savoie, puisque nous avons construit la carte des vins à l'auberge du Perbise dans ce sens, qui était donc comté de Nice et de Savoie, donc qui pouvait aller jusque, comme on le disait tout à l'heure, le comté de Nice, donc dans la région du Belay, voire même les prémices du Barolo. Donc dans le Piémont italien, le Val d'Aoste, la Savoie et toute la Haute-Savoie et l'Ain. Voilà.
Tout cela est une ère de culture commune et tout à fait passionnante à explorer. Nous devons nous quitter. Juste l'intitulé du petit plat dessert, la petite gourmandise qui va circuler dans le public. Jean Sulpice, la recette sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Une petite douceur pour terminer, une tarte de fruits de saison et de petits pois carottes.
Incroyable.
Ils sont confits dans la vanille.
Avec une petite pâte craquante. Oh là là, les mains se lèvent. Les mains se lèvent. Je ne sais pas s'il y en aura malheureusement pour tout le monde, mais en tout cas...
Pardon, je coupe une petite pluche d'olivet sur le dessus. Vous allez voir, ça va venir vous titiller le palais.
Magali et Jean, merci. Vous êtes de vrais aubergistes. Merci pour votre générosité. Vraiment, on peut vous retrouver à l'auberge du Perbise à Talloire pour une expérience gastronomique incroyable au bord du lac, mais aussi, il faut le préciser, pour une très belle cuisine de bistrot au 1903. C'est non votre bistrot, 1903, puisque c'est la date de création de cette auberge.
Exactement, oui.
Merci Jean, à la prochaine. Merci Magali.
Merci beaucoup.
Laurent Capretti, l'un des deux pêcheurs sur le lac d'Annecy. On peut le croiser très tôt le matin sur sa petite embarcation. Et tous les points de vente de vos poissons du lac sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci beaucoup Caroline Joguet. Toutes les infos sur vos super fromages également sur notre site. Je tiens à remercier la ville d'Annecy, le Festival international du film d'animation. Merci aussi à l'Imperial Palace pour son accueil chaleureux. Et merci beaucoup à vous, cher public. Merci à la joyeuse équipe des techniciens de Radio France, sans laquelle cette émission n'aurait pas été possible. La semaine prochaine, on se retrouve dans nos studios parisiens pour une émission de bande. Les chroniqueurs et les chroniqueuses dont on va déguster presque au complet pour vous livrer nos bons plans de l'été, les recettes, les bonnes adresses, les lectures gourmandes, entre autres. Merci Elvira, merci Antoine Gerbel.
Merci à tous.
À la prochaine.
Bon dimanche.
À dimanche prochain. Si vous avez encore faim, et au revoir Annecy.